Bonjour, bienvenue sur le blog e-génieclimatique.com. Aujourd'hui, je vais vous présenter un livre, Réussir l'attestation d'aptitude à la manipulation des fluides frigorigènes, aux éditions Castella. Ce livre est sorti au mois de juin, je l'ai découvert en surfant sur le web. Donc voilà la couverture. Les techniciens frigoristes réussir l'attestation d'aptitude à la manipulation des fluides frigorigènes. Voilà la quatrième de couverture. Ce livre a été construit pour être un outil de révision pour le passage de l'examen d'attestation d'aptitude à la manipulation des fluides frigorigènes. Niveau 1, niveau 4. Particularité, on y trouve un texte qui révèle vos points faibles. Il vous suffira alors de revoir le ou les chapitres concernés. Ce livre fait 137 pages, il est en noir et blanc et il est au format A4, ce qui rend les schémas très lisibles. Il coûte 14 €, un prix qui reste très abordable. On peut l'acheter sur le site de l'éditeur Castella. Et actuellement sur Amazon, le livre est indisponible, comme d'ailleurs presque tous les livres techniques. Le titre du livre, Réussir l'attestation d'aptitude à la manipulation des fuites frigorigènes, est très accrocheur. À ma connaissance, c'est le seul livre sur le marché qui traite de ce sujet. Il y a un autre livre, Confinement et récupération des fuites frigorigènes du caustique, qui traite juste de la partie fluide. Donc actuellement, pour pouvoir être frigoriste, en plus d'avoir un diplôme ou un titre professionnel, la réglementation impose d'avoir l'attestation d'aptitude à la manipulation des fuites frigorigènes sous peine de sanctions pénales. Pourquoi? Parce que les fuites frigorigènes sont tous nocifs pour l'environnement, à part peut-être le R718, qui est de l'eau. Donc soit les fuites détruisent la couche d'ozone, soit ils provoquent l'effet de serre. En moyenne, un kilo de fuites frigorigènes lâchées dans l'atmosphère a un effet de serre équivalent à 3 tonnes de CO2. Ou soit ils sont dangereux pour le monde vivant, toxicité, comme l'ammoniac, et inflammabilité. Avant l'existence de cette réglementation, pour faire des économies de temps et d'argent, beaucoup de techniciens ne récupéraient pas les fuites dans les règles de l'art. Les fuites étaient relâchées à l'atmosphère, car récupérer les fuites, ça prend du temps et ça a un coût. Les intervenants sur les machines frigorifiques sont classés en 5 catégories, suivant le travail qu'ils vont effectuer. Catégorie 1. Contrôle d'étanchéité, maintenance et entretien, mise en service, récupération des fuites des équipements de tous les équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur. La catégorie 1 est la plus élevée. Catégorie 2. Maintenance et entretien, mise en service, récupération des fuites des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur contenant moins de 2 kg de fuites frigorigènes et contrôle d'étanchéité des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur. La catégorie 3, récupération des fluides des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur contenant moins de 2 kg de fuites frigorigènes. Catégorie 4, contrôle d'étanchéité des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur. Catégorie 5, contrôle d'étanchéité, maintenance et entretien, mise en service, récupération des fuites des systèmes de climatisation de véhicules, engins et matériel mentionnés à l'article R311-1 du code de la route. Le livre ne traite que des catégories 1 à 4. Cet examen contient une épreuve théorique et une épreuve pratique. Les compétences à évaluer reposent sur 10 sujets, et dans ces 10 sujets, il y a plusieurs sous-catégories. Je vais vous énumérer les 10 sujets. Alors, premier sujet, thermodynamique élémentaire. Deuxième sujet, incidence sur l'environnement des fuites frigorigènes et réglementation correspondante en matière d'environnement. Troisième sujet, contrôle à effectuer préalablement à la mise en service après une longue période d'interruption, un entretien ou une réparation ou durant le fonctionnement. Sujet 4, contrôle d'étanchéité. 5, gestion écologique du système et du fuite frigorigène lors de l'installation, de l'entretien, de la réparation, de la récupération. Sujet 6, composants. Installation, mise en service et entretien de compresseurs à pistons alternatifs, à vis et à spirale, à un ou deux étages. Chapitre 7. Sujet 7. Composants. Installation, mise en service et entretien de condenseurs à air froid et à eau froide. Le sujet 8. Composants. Installation, mise en service et entretien d'évaporateurs à air froid et à eau froide. Chapitre 9. Donc sujet 9. Composants. Installation, mise en service et réparation des détendeurs thermostatiques et autres composants. Chapitre 10, tuyauterie. Monter un réseau de tuyauterie étanche dans une installation de réfrigération. Ce livre traite de presque tous ces sujets. Certains sujets ne sont pas traités, c'est dommage. Donc ce que je n'ai pas aimé, le livre ne parle pas des règles de l'art sur tout ce qui est travail du cuivre et du brasage, utilisation de cuivre, qualité frigorifique, de brasure à l'argent, de braser sous atmosphère inerte pour éviter la calamine dans le circuit frigorifique, de protéger le matériel à braser avec un chiffon mouillé pour ne pas faire fondre les joints lorsqu'il y en a, etc. Il n'y a pas de procédure pour tout ce qui est montage et démontage d'éléments mécaniques de la machine frigorifique comme changer le compresseur, changer le déshydrateur, changer le détendeur, changer l'électrovanne liquide, changer la 24 voies, vidanger l'huile du compresseur, comme faire un contrôle qualité de l'huile, etc. Ce qui est étonnant car dans l'examen, il y a une partie pratique qui peut tomber sur ces points comme le 5.04, vider l'huile usagée d'un système, 6.02, installer correctement un compresseur, 6.05, vérifier le circuit de retour de l'huile, 7.03, installer correctement un condenseur, le point 8.03, installer correctement un évaporateur, le point 8.06, inspecter le circuit de dégivrage à l'air chaud, le 9.02, installer des vannes dans la bonne position, le 10.01, soudage, brasage fort et au brasage tendre des joints étanches sur des tubes et des tuyaux métalliques pouvant être utilisés dans des systèmes de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur. 10.02, savoir monter ou vérifier les supports des tuyaux et de composants. Peut-être que ces éléments seront ajoutés dans une version ultérieure du livre. J'allais oublier, il y a une bizarrerie dans le livre, ou c'est moi qui ne comprends rien, mais à la page 100, régulation des installations, tableau récapitulatif de réglage des pressostats, l'auteur dit dans la ligne enclenchement, le HP de sécurité doit être égal à la pression de condensation ou en fonction du différentiel lorsqu'il est fixe. Donc je ne comprends pas à quoi ça sert de mettre un pressostat différentiel sur le HP sécurité. Si je règle le HP sécurité à la pression de condensation, ma machine va se mettre en sécurité, et c'est pas le but. Il me semble qu'il faut régler le pressostat HP sécurité 5 Kelvin au-dessus de la pression de condensation. Et T. Ou à la pression maximum en fonctionnement que peut supporter l'installation. De plus, un HP sécurité est obligatoirement un rayonnement manuel. Et puis dessous cette ligne, enclenchement, il y a une ligne coupure. L'auteur dit, par relation pression-température, T coupure égale T condensation estivale, plus 10 à 15 Kelvin, sans jamais dépasser la pression maxi de service. Pour moi, cette partie qui au niveau des schémas électriques n'est pas très claire, elle s'éclaircit au chapitre 17, page 107, réglage des pressostats. Lorsque j'étais en formation, j'ai fait le schéma électrique d'un groupe d'eau glacée et j'avais mis le pressostat sécurité BP et HP en série dans une chaîne de sécurité à réarmement manuel. Ça doit sûrement me troubler car sur le pressostat HP que j'avais, il n'y avait pas de différentiel. Ce que j'ai aimé, alors le questionnaire de positionnement qui permet de faire le point sur nos connaissances et donc de mettre le doigt sur nos lacunes, qu'il y a au début du livre. À la fin de chaque chapitre, il y a un test d'auto-évaluation pour faire le point. Avec la correction, bien sûr. Le format A4 du livre qui le rend très lisible. C'est écrit assez gros, c'est assez confortable à lire. Tous les schémas explicatifs, dont les schémas électriques, minimum protection, automatic pump down, single pump down, qui sont en schéma développé. Les schémas sont clairs, ils sont très lisibles. Et le livre est bien structuré. Conclusion. Les sujets traités par ce livre le sont aussi dans le livre Le manuel de dépanneur et dans le livre Les bases du froid. La valeur ajoutée de ce livre par rapport à ceux que je cite précédemment, c'est que ce livre contient presque toutes les connaissances que l'on doit savoir pour passer cet examen. Le tout est concentré sur 137 pages, alors que pour le manuel du dépanneur et les bases du froid, les connaissances sont étalées sur environ 1400 pages. Je pense que ce livre est un bon outil pour se préparer à l'attestation d'aptitude, et quand je vois le prix du livre par rapport à d'autres livres techniques de 140 pages, il n'y a pas à hésiter. Je n'ai jamais passé cet examen, par contre, ce que je sais, c'est que les techniciens qui y vont sans préparation, même avec des années d'expérience, échouent à cet examen, car ils ont de mauvaises méthodes de travail. J'en ai déjà rencontré à qui ça pose un vrai problème de tir au vide, les flexibles des manifolds, car pour certains d'entre eux, c'est une perte de temps et ça ne sert à rien. C'est le genre de choses qui ne passent plus aujourd'hui, et ça doit être dur pour l'ego lorsqu'on a 10 ans d'expérience en tant que frigoriste, d'échouer à cette attestation d'aptitude. De voir que la manière dont l'on travaille est mauvaise. Voilà, j'ai rajouté cet ouvrage à mes outils de référence en froid. Je vous donne la liste dans l'ordre de lecture que je vous conseille, du plus facile au plus complexe. Donc en premier, Nerbaz 3e édition, qui comprend Frigobase plus Thermobase, de Kozza. Donc pour l'apprenant qui part de zéro en froid, accessible à toute personne qui veut comprendre et apprendre le froid. En deux, je mets le manuel dépanneur 5e édition de Kozza. Donc c'est la Bible, hein, comme certains disent, pour le technicien de terrain. Ce livre permet d'avoir un bon niveau technique. En trois, les bases du froid de Francis Cabeza. Donc pour les calculs, la maîtrise de base du diagramme entalpique et des schémas frigorifiques complexes. Car le manuel de dépanneur fait complètement l'impasse sur le diagramme entalpique et ses calculs. En 4, donc je mets ce livre-là, réussir l'attestation d'aptitude à la manipulation des fuites frigorigènes, aux éditions Cassia. Donc pour se préparer à cet examen et savoir ce qui est indispensable. En 5, je mets Fondamentaux d'hydraulique pratique, deuxième édition de Joe Lassala. Même si le manuel du dépanneur traite de ce sujet, pour remettre une couche sur l'hydraulique et les groupes d'eau glacée, ce livre est excellent. L'hydraulique est souvent le gros point faible des techniciens de terrain. En 6, Régulation, chauffage, eau chaude sanitaire, ventilation, conditionnement d'air de Philippe David de Virville. Donc la régulation, c'est important à comprendre et ce livre est accessible. Ça permet de démythifier la régulation. Voilà, et pour finir, je vous présente le sommaire du livre. Réussir l'attestation d'aptitude à la manipulation des fuites frigorigènes pour vous donner une idée plus précise du contenu de l'ouvrage. Donc, sommaire du livre. 1. La réglementation. Donc, dedans, il y a historique de la réglementation, application de la nouvelle réglementation, questionnaire de positionnement. En 2, généralité sur les systèmes thermodynamiques. Donc, en sous-catégorie, on a grandeur et unité, quelques définitions pour une machine frigorifique. Le cycle de réfrigération simple étage, donc l'auto-évaluation, le circuit frigorifique, les tracés de cycle frigorifique et encore une auto-évaluation. En 3, on a les fuites frigorigènes, donc leur rôle, le choix d'un fuite frigorigène, la désignation d'un frigorigène, désignation d'un fuite frigorigène en fonction de son application, les huiles frigorifiques. En 4, on a technologie des compresseurs frigorifiques. Donc, le rôle, les types de compresseurs, la technologie des compresseurs, les grandeurs caractéristiques des compresseurs, l'étanchéité des compresseurs, la lubrification des compresseurs, la variation des puissances de compresseurs, la centrale frigorifique, le bypass des gaz et l'utilisation d'un régulateur de capacité. Et l'auto-évaluation de ce chapitre. En 5, le condenseur. Donc en sous-catégorie, donc le rôle, la classification, la puissance calorifique, le type de condenseur et l'auto-évaluation. En 6, on a l'évaporateur. Donc le rôle, la classification, la puissance frigorifique, les types d'évaporateurs et toujours l'auto-évaluation. En 7, technologie des détendeurs. Donc leur rôle et les types de détendeurs. Et toujours l'auto-évaluation de fin de chapitre. En 8, les régulateurs de pression. Donc les régulateurs de pression d'évaporation, régulateurs de pression d'aspiration, régulateurs de capacité, régulateurs de pression de condensation. Et l'auto-évaluation. En 9, régulation des installations. La régulation thermostatique avec protection minimum. Donc ça, c'est le minimum protection. La régulation par tirage au vide automatique. Donc ça c'est l'automatique pump down. Et la régulation par tirage au vide unique. Donc ça c'est le single pump down. Et le dégivrage des installations et l'auto-évaluation. En 10, manipulation sur les installations. Donc ça c'est mon chapitre préféré. Il y a tous les schémas de base. Tous les branchements sont représentés par des schémas qui sont bien faits. Donc en sous-catégorie il y a la paire de manomètres, la vanne de service, raccordement d'une paire de manomètres, la recherche de fuite, le tirage au vide, la charge en fuite frigorigène, donc en 17, réglage des pressostats, critères de bon fonctionnement, contrôle de fuite au détecteur, récupération du fuite frigorigène, rédaction d'une fiche d'intervention et auto-évaluation. En 11, déroulement de l'attestation d'aptitude dans un centre, le test théorique, le test pratique. Donc voilà, si vous avez des remarques, vous pouvez aller sur le forum. Donc, hein, comme vous pouvez le voir, c'est un bon livre et je vous le conseille. Donc si ces documents vous apportent quelque chose d'utile, vous pouvez apporter votre soutien par un don PayPal, quel que soit le montant. Et voter pour l'article, bien sûr, si vous avez aimé, en cliquant sur l'icône Google plus 1 en bas à gauche. Le plus 1, c'est celui-là. Ici, là. Voilà, et à bientôt pour un prochain article. Sur e-génieclimatique.com et sur la chaîne YouTube Thémette Lardy. À bientôt.